L'un dans l'autre, l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.
Bienvenue dans cette édition de L'un dans l'autre, le magazine d'information locale de Radio B. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Elsa.
Bonjour Perrine, bonjour tout le monde.
Non mais genre, cette fois, il ne s'agit pas seulement de l'expression, mais bien de l'événement à venir à Ambérieu en Bugey. Organisé par la MJC Louise Michel et le Centre social Le Lavoir, en écho à la Journée internationale des droits des femmes, la deuxième édition de cet événement aborde les questions de stéréotypes de genre, d'inégalité homme-femme, grâce à des conférences, une exposition, une scène ouverte et un spectacle.
Ces sujets actuels interrogent les rôles de chacun dans notre société et demandent souvent des temps de sensibilisation. Alicia Lavaux, animatrice en charge de la programmation et des actions culturelles, et Jean Lemerle, coordinateur culturel de la MJC, témoignent de leur rôle quotidien auprès des jeunes et répondent à nos questions sur l'événement.
Interview à retrouver en deuxième partie d'émission.
Mais tout de suite, les brèves.
L'un dans l'autre, les brèves. Hommage rendu à un athlète burgien historique.
Pour la période des Jeux Olympiques, faut-il déplacer et mettre davantage en valeur la statue de l'athlète olympique local Claudius Favier, glorieux lutteur bressan qui a participé aux Jeux Olympiques de Paris en 1900. La statue se situe actuellement au stade Louis Parent. La demande formulée par l'association Les Chroniques de Bresse serait de la transférer vers l'hôtel de ville burgien. Le maire est favorable à l'hommage rendu à Claudius Favier, mais se montre prudent quant à la faisabilité du déménagement de l'imposante statue. La question va être étudiée, affaire à suivre.
Graines de lecteur, votez jusqu'au 30 avril.
Dévorer chaque chapitre, sentir les pages d'un ouvrage, voire même mordiller le coin de la couverture. Qu'on soit bébé ou jeune enfant, on peut prendre plaisir à toucher les livres ou à écouter ses parents raconter une histoire. Ce sont ces moments d'échange que le département de l'Ain veut valoriser en organisant le prix Graines de lecteur. En 2023, les enfants ont élu deux livres, On est en retard, d'Arnaud Tiercelli, et 1, 2, 3 petits chats, d'Emmanuel Aglan, un livre d'ailleurs imprimé à Bourg-en-Bresse.
Mais on peut voter pour n'importe quelle œuvre de littérature jeunesse ?
Non, les bibliothèques de l'Ain ont choisi 10 albums. Ils sont à découvrir dans les médiathèques participant au concours. Vous pouvez voter pour votre préféré jusqu'au 30 avril 2024.
On se sent mieux dans les gares et les trains régionaux.
La région annonce les résultats de sa politique sécuritaire dans les gares. Baisse de 51% des actes de délinquance entre 2021 et 2023. En effet, des moyens ont été déployés pour sécuriser les abords des gares et les trajets régionaux, avec l'installation de 2300 caméras, l'équipement de la totalité des TER en vidéoprotection et la création d'un centre régional de sécurité des transports à Lyon. Il permettrait de visionner les images vidéo des gares et des 110 trains circulants.
Journée internationale des droits des femmes, les résistantes à l'honneur.
Le musée de la résistance et de la déportation de l'Ain à Nantua ouvre gratuitement ses portes le 8 mars pour rendre hommage aux femmes engagées. Au programme, diffusion du documentaire « La dernière d'entre elles » qui présente Rosette, déportée pendant la Seconde Guerre mondiale, projection à 10h30 et 14h30. 11 guerrières mises à l'honneur avec l'exposition « Résistance au féminin ». La médiathèque de Nantua met à l'honneur les résistantes qui se sont illustrées par leur détermination et leur engagement, et ont reçu très peu de reconnaissance historique jusqu'à maintenant. Renseignements pratiques sur le site www.patrimoine.1.fr.
L'un dans l'autre, l'interview.
Comment aborder le sexisme, notamment auprès du jeune public ?
Jean Lemerle, le coordinateur culturel de la MJC d'Ambérieu en Bugey, et Alicia Lavaux, agente de développement social et culturel au Centre social Le Lavoir, co-organisent la journée « Non mais genre » proposée le samedi 9 mars à partir de 15h à la MJC. Les deux professionnels nous parlent de cet événement, mais aussi de leur engagement quotidien. Ils nous racontent comment lutter contre les stéréotypes de genre qui persistent dans notre société.
Cette semaine, nous accueillons Alicia Lavaux et Jean Lemerle. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Cette semaine, vous co-organisez un événement, Non mais genre. Pourquoi cet événement aujourd'hui ?
C'est un événement qu'on fait maintenant pour la deuxième année consécutive. ça nous tenait à cœur de proposer durant la période de la journée de lutte pour les droits des femmes une quinzaine un peu plus large qui aborderait des thématiques pas seulement le 8 mars mais sur bien 15 jours qui concernent tout ce qui est les stéréotypes de genre, le genre en général, les questions LGBT, les inégalités qu'on peut observer dans notre société. Parce que c'est des sujets que l'on sait qu'il faut encore travailler.
Et pourquoi c'est important de discuter de ces questions auprès des jeunes ou des enfants, selon vous ?
Alors oui, pendant nos méjans, on cible en particulier les jeunes. Cette année, on va être très présent dans les lycées, parce qu'on se rend compte que, ben, quoi qu'on en dise, les combats sont encore loin d'être gagnés. Et les chiffres qui sortent, qui sont publiés encore cette année en 2024, montrent qu'il y a même une augmentation du sexisme chez les jeunes, en particulier chez les jeunes hommes. Donc il y a encore tout un travail à mener sur les représentations qu'on peut avoir dans les relations filles-garçons. Par exemple, il y a un quart des hommes de 25 à 34 ans qui pensent qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter d'une femme. Et ça produit beaucoup de violence dans la société. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye d'avoir une action en particulier destinée à prévenir, à discuter avec eux aussi pour travailler sur leur représentation.
Et alors justement, au niveau des représentations, cette édition, vous allez faire appel aux sorcières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette figure, ce personnage ?
Alors, les sorcières, oui, c'est une image qui est reprise depuis les mouvements féministes des années 1970, qui a été réappropriée. En fait, ces mouvements se sont rendus compte qu'il y avait tout un pan de l'histoire qui avait été très peu étudié. Ces chasses aux sorcières qui ont eu lieu au 15e, 16e, 17e siècle et qui ont été des véritables massacres de masse, en fait, de femmes dans toute l'Europe et puis après dans plein de pays du monde. Et des femmes qui étaient tuées parce qu'elles étaient justement des femmes guérisseuses, des femmes qui étaient rebelles puisqu'elles allaient à l'encontre des normes de la société, des femmes qui étaient sages-femmes aussi, qui pratiquaient des avortements. Et donc ça, c'est l'illustration d'une image créée des violences qui peuvent être commises à l'encontre des femmes. Et la sorcellerie, les condamnations pour sorcellerie, elles sont encore valables aujourd'hui dans certains pays du monde, comme en Inde, au Ghana. En France, c'est plus le cas. Mais par contre, il y a des images qui persistent et qui sont encore présentes aujourd'hui dans notre société.
Et je rajouterais que c'était intéressant de travailler sur ce sujet auprès des jeunes, puisque quand vous leur demandez qu'est-ce que c'est une sorcière, pour eux, ils vous décrivent quelqu'un de méchant. Parce qu'ils ont l'image un peu de la pop culture qui a créé cette image-là de la sorcière, mais ils ne connaissent pas la figure historique, parce que ce n'est pas un pan qui est forcément étudié en primaire, au collège ou au lycée. Ce n'est pas quelque chose que l'on va étudier tout le temps en cours d'histoire. Moi, je sais que, par exemple, je prends un exemple, j'ai connu cette figure de la sorcière, de pourquoi on appelait une des femmes une sorcière, grâce à la lecture du livre de Mona Chollet, « La sorcière, la puissance invaincue des femmes ». Et du coup, on fait tout ça pour que cette histoire soit transmise aux plus jeunes.
Et justement, lors de votre événement, il va y avoir plusieurs ateliers. Est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter une ou deux choses qu'on pourra faire là-bas, une expo, un débat ou une scène ouverte ?
Oui, alors l'exposition fait appel à tous les artistes amateurs qui ont envie justement de s'emparer de cette image de la sorcière, des sorcières. Et d'en faire quelque chose, une œuvre d'art, donc qui peut être un tableau, une œuvre plastique, une sculpture, qui vont être exposées dans la MJC. Et puis on s'est dit que ça pourrait être sympa d'organiser une scène ouverte, donc qui aura lieu le samedi 9 mars à 17h, sur le thème sorcière également. Donc là, l'idée, c'est que chacune et chacun puisse venir lire un texte, présenter une image, lire un poème, un slam, voilà ce qu'on veut sur la scène autour de cette thématique sorcière, avec bien sûr, on fait toujours, l'idée c'est pas de venir lire un Walt Disney, c'est de faire l'écho avec cette journée du 8 mars.
Et c'est un événement qui sera familial, hein, puisqu'on propose un espace un peu aussi, un peu plus détente, où il y aura des lectures et des jeux, donc il y aura des livres que l'on propose autant pour les petits que pour les grands, que pour les adultes, sur le thème des sorcières et des jeux de société aussi qui traitent de ça. Donc, apprendre tout en s'amusant.
D'accord. Et peut-être une question un peu plus large. Sur le quotidien, comment on évoque au jour le jour les questions de stéréotypes de genre au sein d'un centre social ou du MJC avec les jeunes, avec les scolaires. Voilà, au-delà de votre événement, comment vous échangez sur ces questions ?
L'idée, c'est surtout de partir des situations vécues, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on vit dans la vie, quel est notre regard sur ce qui peut se passer déjà dans notre environnement proche, notre famille, nos parents, nos frères et sœurs, à l'école, au lycée, et d'essayer de mettre des mots sur des situations, déjà de les repérer, en fait, les situations. Et c'est pour cela, par exemple, on intervient au lycée d'un porteur de parole, la forme d'un porteur de parole. Donc l'idée, c'est d'amener des phrases ou des slogans un peu chocs qui peuvent interpeller, qui peuvent même, la première fois, faire une réaction un petit peu de rejet. Mais c'est justement le but, c'est pourquoi ça nous heurte, ces slogans ou ces affirmations, et qu'est-ce que ça crée en nous. Et à partir de là, entamer une discussion avec les jeunes, aller les chercher un petit peu sur gratter le pourquoi ils disent ce qu'ils disent, en fait, ou ils pensent ce qu'ils pensent. Et au fur et à mesure, en fait, l'idée, c'est de créer des espaces un peu informels d'échange où on va afficher des extraits de paroles, où eux-mêmes peuvent écrire leurs réactions. Et on affiche tout ça, et au fur et à mesure, le débat est enrichi par toutes les réactions des uns et des autres.
Et je dirais que voilà, en dehors de l'événement, on est un peu des personnes relais où les jeunes peuvent venir discuter. Parce que parfois, il y a certaines discussions qu'ils n'auront pas avec leurs parents, mais qu'ils auront avec nous. Par exemple, que ce soit sur les règles, que ce soit sur l'orientation sexuelle, que ce soit sur l'identité de genre, ou que ce soit sur des fois même leurs relations entre eux. Par exemple, moi, je sais qu'on a souvent les jeunes filles qui viennent nous parler de leurs relations avec leurs copains pour savoir si tel ou tel agissement est normal, et on prend le temps d'en parler, et au besoin d'orienter sur des structures, sur les structures nécessaires. On reste aussi, en dehors de l'événement, des espaces de parole et des espaces de confiance quand on crée ce lien avec les jeunes, c'est-à-dire qu'on est repéré.
On entend qu'il y a de l'échange, qu'il y a des discussions possibles. Est-ce que vous pouvez même faire de la prévention ?
Oui, on en fait. Alors moi, chez Co-Centre Social, on passe souvent par le jeu. Il y a plein d'outils d'éducation à la sexualité et à la vie affective qui sont développés. Par exemple, j'utilise le jeu des privilèges très souvent pour sensibiliser aux questions des discriminations. C'est un jeu de rôle où on se met à la place de quelqu'un d'autre pour prendre conscience de moi je ne subis pas cette discrimination, mais cette personne-là peut le subir, et du coup, qu'est-ce que ça fait ? Et ça peut du coup inviter le jeune à plus dire certaines paroles après.
Il y a aussi le violentomètre, qui est un outil qu'on utilise beaucoup dans les établissements scolaires pour comprendre un petit peu l'échelle des violences et comment on perçoit les violences, en fait, les différentes échelles de la violence. Alors en prévention, oui. Ce qu'on peut dire, c'est quand même que c'est très difficile de parler de beaucoup de sujets autour de l'éducation affective et sexuelle, autour de ces questions-là, que ce soit à l'école, parce que les programmes ne sont pas forcément très bien faits, que les personnels ne sont pas toujours formés, mais aussi dans les familles. Et donc les MJC, les centres sociaux, ce sont des espaces où il y a un petit peu plus, on va dire, de liberté, de parole, d'action, et où on va pouvoir accueillir la parole des jeunes. Et après, peut-être surtout les orienter vers les structures-là qui sont vraiment spécialisées en prévention.
On travaille aussi beaucoup avec les structures éducatives, aussi avec la mairie. On n'hésite pas à faire appel, par exemple, au Centre LGBT de Lyon ou toute autre association qui travaille sur ces sujets. Donc, c'est le partenariat et le réseau qu'on construit dans des villes comme Ambérieux qui sont importants pour mettre ces dynamiques sur le devant de la scène, ces sujets sur le devant de la scène.
Oui, vous permettez l'échange et la prise de contact avec d'autres associations, d'autres structures.
Voilà, exactement.
Et alors, on avait envie de vous poser la question, est-ce que vous sentez auprès des nouvelles générations un autre rapport au sexisme ? Est-ce qu'ils se posent plus de questions sur les inégalités hommes-femmes ? Est-ce qu'ils s'informent plus ?
Alors, c'est un peu ambigu. Enfin, moi, mon sentiment, c'est que à la fois, ils ont l'impression qu'on les serine avec ces questions-là. C'est-à-dire, ils ont l'impression d'en entendre beaucoup parler. Durant leur cursus scolaire, peut-être dans les médias. Enfin voilà, ils ont. Et ensuite, il y a une grande diversité, en fait, au sein des jeunes, de positionnement. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être. Certains jeunes qui vont être très. Conscientisés dès un jeune âge, l'entrée au collège, voire même avant, parce qu'ils ont été dans un cadre culturel, familial. Qui les a conscientisés sur ces questions. Et puis, il y a tout un pan, en particulier de jeunes garçons, qui ont en fait un effet un peu repoussoir et du coup qui vont à l'inverse se retrouver dans du sexisme encore peut-être plus fort que ce qu'il a été quelque part, ou en tout cas de nouvelles formes de sexisme qui ont tendance à mettre sur le féminisme, sur ce qu'on leur a dit, la responsabilité de la situation. Donc c'est un petit peu en ambigu, il y a un contre-mouvement, on va dire, un petit peu de retour à des valeurs traditionnelles qu'on sent quand même poindre dans une grande partie quand on anime des ateliers avec des réactions qui sont assez étranges, enfin qu'on a l'impression d'être étranges en 2024, mais qui sont en fait assez courantes.
Oui, je suis assez d'accord. Il y a deux types de profils pour moi, je dirais actuellement. Ceux qui sont sensibilisés parce qu'ils sont dans un cadre familial ou alors ils ont été dans le cadre de leur établissement scolaire, ils ont pu avoir accès à plusieurs sensibilisations. Mais sinon, il y a aussi une autre partie des jeunes qui, dans le cercle familial, c'est très fermé sur ces questions. Mais aussi, par exemple, la question de la consommation qu'on a des réseaux. On voit des influenceurs quand même qui prônent un retour à des valeurs qui sont hyper sexistes, hyper homophobes. Quand je quitte l'école et quand je quitte mon cercle familial, que je vais dans ma chambre et que je regarde que des influenceurs de ce type-là, c'est vrai que du coup, ça peut augmenter le sexisme, quoi.
Enfin, dernière question, est-ce que vous auriez un conseil à donner pour informer, sensibiliser le public au sexisme? Alors, soit d'aller à votre rencontre, ou est-ce que vous auriez une recommandation? Voilà, on a envie d'en apprendre plus sur le sujet du sexisme. Votre premier conseil, ce serait quoi?
Si je prends l'exemple de mon parcours, hein,
oui.
Moi, c'est les lectures qui m'ont beaucoup aidée. C'est vrai que c'est des informations. Alors certes, c'est des informations que j'ai dû chercher. Hein, donc ça a demandé que j'aille en librairie, aller chercher des livres sur ces sujets-là. Mais ça, c'est par exemple utile, je trouve, pour les parents. Je sais qu'ils demandent parfois, nous, on des demandes sur comment je peux faire une éducation non genrée. Il faut savoir que maintenant en France, on a quand même plusieurs propositions de livres à ce sujet, même à destination des petits garçons, parce que pendant un moment, on a beaucoup fait ce genre de livres pour les filles, éducation non sexiste pour les filles, mais maintenant, même pour les petits garçons, il y a. Donc j'irais déjà peut-être, ça peut être par la littérature.
Et moi, je donnerais comme conseil, notamment aux hommes, d'écouter en fait tout simplement beaucoup de femmes qui s'expriment. Souvent dans la famille, on a quelqu'un dans les repas de Noël ou les discussions, on va avoir quelqu'un qui va commencer à parler d'un sujet, souvent une femme qui va aborder un sujet féministe, et on va avoir vite tendance à repousser ça, à s'en moquer, etc. Et en fait, moi, je donnerais ce conseil d'écouter les femmes qui portent une parole féministe, toujours se rappeler que les chiffres sont effarants, en fait, des violences sur les femmes, hein, que ce soit du féminicide qui est l'acte le plus extrême, mais au sexisme au quotidien. Et donc de se dire que ça vient pas de nulle part, et que si c'est le cas, c'est que toutes nos sœurs, nos filles, nos mères, nos grands-mères en ont été victimes de près ou de loin, et qu'il faut avant tout écouter avant de se faire vouloir amener son avis comme ça brûle pour point sans avoir trop réfléchi sur la question.
Et souvent on pense que quand on parle de ces sujets-là, c'est que pour les femmes. Et non, c'est aussi pour les hommes, parce qu'on a ce qu'on appelle le virilisme. Le virilisme, c'est tout l'impact de tout ce qui est la notion de virilité, qui actuellement a un impact sur la santé mentale des hommes, sur leur façon de vivre. Voilà, donc ça, c'est des choses où ils sont aussi concernés, mais des fois, ils ne se sentent pas concernés, mais leur dire que si, ils le sont, parce que quand on grandit avec certaines normes viriles, il y a plein de choses qu'on ne s'autorise pas à faire, dont par exemple exprimer certaines émotions ou ne pas se sentir légitime à se ressentir de telle façon ou de telle façon. Voilà.
Eh bien, merci Alicia Lavaux et Jean Lemerle pour vos réponses.
Merci à vous.
Merci.
On rappelle votre événement Non mais genre du 4 au 16 mars 2024 sur la ville d'Ambérieu-en-Bugey.
L'un dans l'autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Elsa, merci Jimmy à la réalisation.
Merci Perrine, on vous retrouve lundi prochain à 18h pour de nouvelles infos qui vous engagent.
L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et
Elsa.